Edith Wharton par Raymond Recouly. Un des romanciers les plus célèbres des États-Unis, une femme d'une immense culture, d'un remarquable talent et d'un grand cœur, fervente amie de la France, comme elle nous l'a prouvé durant des heures difficiles, Edith Wharton vient de mourir. Une vieille amitié m'unissait à elle. Nous étions voisins sur la Côte d'Azur. C'est pendant un assez long séjour dans sa merveilleuse propriété d'hier que, découvrant l'extraordinaire beauté de la région toulonnaise, jusque-là insoupçonnée de moi, je résolus de m'y établir. Un mélange étonnamment réussi de culture anglo-saxonne et européenne, la connaissance approfondie des littératures anglaises, américaines, françaises, allemandes, italiennes, c'est ce que le talent, la conversation d'Edith Wharton faisait ressortir avant tout. Elle avait infiniment de distinction et de charme. Un peu froide d'aspect, d'une froideur tout apparente, venant surtout d'une certaine timidité, le débit mesuré et lent, elle cherchait, mais trouvait toujours le mot juste, l'expression appropriée. Elle excellait à répandre en ses propos une légère pointe d'humour, comme un soupçon de plaisanterie enveloppée, délicate, une manière originale, inattendue, de voir et de juger les hommes et les choses. Appartenant par sa naissance à une ancienne famille de la Nouvelle-Angleterre, à l'aristocratie des États-Unis, elle avait gardé, en dépit de son très long séjour chez nous, certains côtés très New England, comme on dit dans son pays. Étroitement mêlée, après son mariage, à la vie élégante, luxueuse, du grand monde américain, elle se sentait trop d'originalité, d'intelligence pour ne pas éprouver, de bonheur, le désir de s'en évader. Ses relations prolongées, familières avec le célèbre écrivain Henry James, exercèrent sur le développement de son esprit, le choix et le cours de sa carrière littéraire une influence prédominante. Le roman qui fonda sa réputation, la rendit célèbre, est une peinture fouillée, amusante par moments, assez dure, de la riche et oisive société new-yorkaise. The House of Mirth, traduit en français, sous cet assez méchant titre, chez les heureux du monde. Son meilleur livre, à bien des égards, un vrai chef-d'œuvre, est à mon avis Ethan Frome, une âpre tragédie de paysan américain. Son roman L'âge d'innocence, publié après la guerre, obtint en 1921 le prix Pulitzer. Quelques années plus tard, son auteur recevait à la grande université de Yale le titre de docteur en littérature qui n'avait jamais été auparavant conféré à une femme. Chargé de gloire, obtenant dans tous les pays de langue anglaise les plus gros tirages, Edith Wharton a réalisé cette réussite d'être appréciée, admirée à la fois par le grand public et par les connaisseurs, les délicats. Au moment de la guerre, elle était depuis assez longtemps déjà installée à Paris, où son appartement de la rue de Varennes, tout voisin de l'hôtel d'Oudoville, était un centre de réunion très fréquenté par les gens du monde, les écrivains, les artistes. Toutes ses sympathies, toutes ses affections étaient avec les alliés. Leur guerre était sa guerre. Désireuse de servir de son mieux une cause qui lui était chère, cette femme, plutôt retirée, timide, avant tout tournée vers la pensée, se jeta de tout son élan, de tout son cœur dans l'action. Elle sollicita et elle obtint de ses compatriotes, ceux de France et ceux d'Amérique, des crédits de plus en plus abondants. Elle créa inépuisablement des hôpitaux, des œuvres d'assistance pour les victimes de la guerre. Elle fit plus, par ses articles, ses appels, ses livres. Elle s'efforça de convaincre son pays que la France et l'Angleterre se battaient pour un idéal commun de justice, d'humanité, de civilisation, dont l'Amérique avait, elle aussi, le devoir d'assurer la défense et le triomphe. Après la lutte et la victoire, Edith Wharton, elle approchait de la soixantaine, éprouva le désir, le besoin de changer le rythme de sa vie. Elle quitta son beau logis parisien pour se donner tout entière à son grand amour des plantes et des fleurs. Un jardin ne lui suffisant pas, elle en eut deux, celui d'hiver et celui d'été. C'est la France, sa seconde patrie, qui lui en fournit le double site, l'un dans un des plus jolis coins de la vieille Provence, l'autre au cœur même de l'Île-de-France, à quelques lieues seulement de Paris. Elle acheta tout en haut de la colline escarpée, dominant les anciens quartiers d'hier, un ermitage entouré de vastes terrains, où, dans l'éboulis des rochers, poussaient les plantes sauvages et les arbustes du maquis. La première fois qu'elle me montra cette acquisition, dont elle était enthousiaste, je me demandais à part moi ce que, même à coup d'effort et d'argent, elle réussirait à faire de ces pentes abruptes, rocailleuses, de ces sentiers de chèvre. Avec son énergie, son sens de l'organisation, elle en fit assez vite un des plus merveilleux jardins du monde, une suite étonnante de plateformes et de terrasses surplombantes, de lacets verdoyants, embaumés, de coins et de recoins remplis de fleurs. Ce n'était pas un jardin, mais 10, 15, 20 jardins, dont chacun était un enchantement. Elle était heureuse et fière d'en faire les honneurs à ses visiteurs. Elle y avait accumulé les espèces les plus précieuses, les plus rares, venues de toutes les parties du monde. Elle savait le nom, les caractéristiques, l'histoire de chaque plante, de chaque fleur. Soucieuse d'agrandir sans cesse son domaine, elle avait fini par acquérir la colline tout entière jusqu'à la vieille tour du sommet, où conduisait un chemin étroit, mais accessible aux petites voitures qu'elle avait fait aménager. De sa terrasse, ombragée de platanes, on découvrait un admirable paysage. Par-delà les toitures fauves des anciens quartiers, la plaine, la plage d'hier, l'immense rade fermée par les îles d'Or, Porquerolles, Port-Croix, la presqu'île de Gien, la pointe et le fort moyenâgeux de Brégançon. Et Edwarton passait 6 à 7 mois, de novembre à mai, dans ce domaine. Puis, après quelques semaines en Italie, elle s'installait pour l'été et l'automne au pavillon Colombe à Saint-Brice, en bordure de la forêt de Montmorency. Comment avait-elle, vers la fin de la guerre, découvert, déniché ce bijou d'architecture où revivait dans toute sa pureté l'élégance et la grâce du XVIIIe siècle? Cette ravissante petite demeure, cette folie champêtre, avait été bâtie pour les sœurs Colombe, célèbres danseuses de l'opéra, auxquelles Jean Cerne a consacré un excellent livre préfacé par Robert de Flair. Dans notre pays, beaucoup plus conservateur qu'on ne croit, il y avait autrefois comme aujourd'hui des familles entières de danseuses, 2 ou 3 sœurs, exécutant tout ensemble les variations pour la joie de leurs admirateurs. À 15 minutes d'auto de Paris, dans une contrée purement agricole, que le développement industriel n'a pas atteinte, ce pavillon de la danse et de l'amour était demeuré absolument intact. Edith Wharton n'eut qu'à s'y installer avec ses bibelots et ses livres. Elle avait beaucoup de livres. Le petit parc et le jardin attenant, avec ses bassins, ses miroirs d'eau, ses plates-bandes, touchés par sa baguette magique, se réveillèrent de leur sommeil pour se parer d'une grâce, d'une beauté merveilleuse. Car leur nouvelle maîtresse était la fée des plantes et des fleurs. Raymond Recoulis.